L'évangile d'aujourd'hui, de ce soir, c'est vraiment le lieu idéal du passage que nous faisons entre le moment de l'Avent qui se termine et où nous entrons dans le mystère de Noël, dans le temps de Noël. Cette longue généalogie symbolise l'Avent. Pas seulement l'Avent liturgique que nous avons vécu, personnellement ou en Église, mais le long Avent, la longue attente d'Israël, et cela depuis Abraham, qui ouvre cette généalogie. Abraham dont Jésus lui-même dira qu'il a vu son jour, Abraham a vu mon jour, dit Jésus, et il s'est réjoui. La promesse faite à Abraham. Le fait qu'il n'y avait humainement aucun espoir qu'il y ait une descendance. Et puis cette intervention de Dieu qui a permis la naissance d'Isaac et à partir de là toute cette descendance que nous avons énumérée. Abraham a déjà saisi la puissance de Dieu. Il s'en est réjoui. Il a vu sa véritable descendance en même temps, qui n'est pas uniquement la descendance charnelle, mais la descendance à travers celui qui est le descendant par excellence, celui que nous accueillons aujourd'hui justement, comme tout petit enfant dans le mystère de Noël. Jésus-Christ, lui qui clôt la longue généalogie que nous avons entendue. Dans toute cette première partie, avec la généalogie, symbolise l'attente d'Israël, l'aspiration d'Israël toujours tournée vers le ciel, vers l'avenir, vers la manifestation de Dieu, vers l'accomplissement des promesses pendant des générations et des générations. Et tout aboutit au petit enfant que nous accueillons dans ce Noël. Tout est récapitulé déjà en lui, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Il a plu à Dieu de tout récapituler dans le Christ, toute l'histoire humaine, toutes les destinées, toutes nos destinées personnelles, toute la réalité créée pour faire une création nouvelle, pour transfigurer, pour sauver, pour purifier, pour sanctifier et finalement pour glorifier, pour nous donner part à la gloire même de Dieu. Lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire d'Israël, on voit bien que dans cette généalogie, l'auteur passe avec une grande sérénité, si on peut dire, à travers des moments qui ont été des grands moments d'épreuve, voire même d'obscurité, ou même de péché. La violence qui a été faite au temps de Judas, avec Tamar, et puis il est fait mention aussi de Rahab, la prostituée qui a sauvé, qui a permis au peuple élu, nouvellement entré en terre promise, d'entrer dans Jéricho et d'abattre la forteresse, l'obstacle principal. Puis il y a cette étrangère qui ne fait même pas partie du peuple d'Israël, mais qui est venue, Ruth. Et puis, il est fait mention, David, de son union avec la femme d'Urias. On se rappelle du péché de David aussi. Et le fruit de cette union, le premier n'a pas survécu. Mais ensuite, après la mort d'Urias, David s'est encore uni à Bethsabée, qui était la femme d'Urias, et le fruit en a été Salomon, et la descendance a ensuite continué. Et puis on fait mention de l'exil à Babylone, qui a été la plus grande tragédie, le drame de toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. La déportation, la destruction, la perte de toute espérance, de toute visibilité de Dieu, l'impossibilité d'exercer le culte. À partir de ce moment-là, la généalogie, on pourrait dire, se fait comme de nuit. Tous ceux qui suivent là ensuite, eh bien, on ne les connaît pas, ou pratiquement pas. La descendance de David a continué, mais dans l'obscurité. Et puis le tout aboutit à cet enfant qui vient. Et le fait que Matthieu, qui écrit bien sûr à la lumière déjà de la nouvelle création, de la rédemption, il décline cette généalogie avec beaucoup de recueillement, mais une grande sérénité. On ne perçoit plus les épreuves. C'est comme s'il y avait déjà une sorte de pacification avec l'enfant qui vient. L'enfant apporte la paix, il guérit les blessures anciennes, et c'est vrai pour notre vie aussi. Il guérit les blessures anciennes, il guérit les moments de turbulence, il apaise, il concentre tout sur cette lumière nouvelle, bien plus forte et pourtant si douce, si humble, bien plus forte que la lumière du soleil ou de la lune. Cette première partie de la généalogie nous enseigne à nous, qui commençons à célébrer Noël, ceci. Remettons dans les mains de l'enfant et dans son cœur tout ce qu'a été notre vie jusqu'ici, surtout les moments difficiles, les moments de deuil, les moments de contradiction, les moments de péché, les moments d'échec de toutes sortes, les moments de turbulence. Remettons tout ce passé pour que l'enfant l'accueille dans ses mains et nous accueille pour faire de nous des créatures nouvelles. C'est le sens spirituel que nous pouvons appliquer à nous-mêmes de toute cette longue généalogie. Remettons notre propre histoire personnelle, notre parenté, notre héritage, nos ancêtres, avec toutes ces ombres et ces lumières, ces moments de splendeur, ces moments peut-être aussi de ténèbres qu'il y a pu y avoir et qui agissent encore en nous, peut-être. Ce qu'on appelle la nécessité d'une guérison aussi profonde, intérieure, par rapport à la mémoire, par rapport à l'héritage reçu de nos ancêtres, l'héritage spirituel ou psychologique. L'enfant est là pour nous accueillir et nous donner la guérison. Donc laissons-le apaiser tout ce qui peut encore être tourmenté en nous, agité, troublé. Et maintenant, la deuxième leçon, la deuxième phase de ce long passage de l'Évangile que nous avons lu, une fois que la généalogie, que le passé a été décliné, alors on plonge dans le présent. On plonge dans ce qui est la plaque tournante, la transfiguration de tout ce passé en une nouvelle création. Ça se passe très doucement, dans l'humilité, la nuit. Marie est enceinte et Joseph ne comprend pas d'abord ce qui se passe. Il veut obéir à la loi, mais comme il est un homme juste, comme Abraham, il ne veut pas accuser, il ne veut pas la dénoncer publiquement, donc il décide de la répudier en secret. Et alors les temps nouveaux commencent pour Joseph aussi, avec l'intervention de l'ange qui lui dit que voilà, fils de David, nous avons vu dans la deuxième lecture la promesse faite à David, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, nous dit, voilà, c'est vraiment lui, le descendant de David, promis. C'est lui. Eh bien, Joseph, fils de David, les temps sont accomplis. Ne crains pas de prendre justement Marie, ton épouse, car maintenant Dieu intervient pour faire quelque chose de nouveau. L'enfant vient de l'Esprit-Saint qui est engendré en elle. Et toi, tu lui donneras le nom de Jésus, parce que maintenant, cette prophétie va s'accomplir. La prophétie qu'on lit dans un psaume, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et comme je l'ai dit l'autre jour, pour le quatrième dimanche de l'Avent, ce verset, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, c'est la conclusion d'un psaume qui commence de façon très sombre, un psaume de nuit. C'est le De Profundis, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, puis qui se poursuit. Comme un guetteur attend l'aurore, attend le Seigneur Israël. Et Joseph peut symboliser ce guetteur, ce veilleur par excellence. Et il dit, accueille ce fils que Marie va te donner. Donne-lui le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et alors, l'évangéliste termine magnifiquement en disant, tout cela est arrivé pour que soit accompli, et c'est en cette nuit que ça s'accomplit. La parole du Seigneur, voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors Joseph, en se réveillant, fait ce que l'ange lui a prescrit. Il prend chez lui son épouse, et il donnera le nom de Jésus à l'enfant. Quelle est la deuxième attitude spirituelle au cours de cette messe que nous devons maintenant adopter? C'est d'ouvrir totalement notre cœur, demander l'intercession de Saint Joseph et de la Vierge Marie, qui grâce à leur sainteté, à leur obéissance, à leur pureté, ont permis à ce jour nouveau d'advenir. Après le long soir de l'attente ou la nuit, voilà que la lumière peut se lever aussi dans nos cœurs à nous, de demander à Jésus de faire toutes choses nouvelles en nous, de donner comme une sorte de nouvelle innocence, une nouvelle virginité à notre vie, à nos sentiments, à nos activités, à notre psychologie, et puis à notre histoire personnelle, et puis notre histoire familiale, et notre histoire tout court qui s'inscrit dans l'histoire humaine. C'est l'attitude que nous devons avoir, cette espérance, avec l'aide de Joseph et de Marie, Seigneur, viens maintenant dans mon cœur, comme tu vas être déposé tout à l'heure dans la mangeoire, viens dans mon cœur et viens faire, comme tu le dis dans l'Apocalypse, toute chose nouvelle. Je m'ouvre à cette nouveauté qui s'enracine d'abord dans la guérison, dans l'abandon total de tout mon passé, avec ses ombres et ses lumières, entre tes mains et dans ton cœur. Je m'ouvre à ce jour nouveau que tu veux faire lever en moi. Amen.